carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
En septembre 2012, Louis-René Berge nous recevait dans son atelier pour parler du temps dans la gravure. Depuis, l'académicien Louis-René Berge est décédé en 2013 et l'émission n'a pas encore été diffusée. Il nous avait ouvert la porte pour recueillir et nous faire participer à une conversation intimiste entre lui et Catherine Gillet, artiste graveur comme lui, mais d'une autre génération. Concordance amicale sur la manière d'exprimer le temps et dialogue entre deux générations. Parole aux artistes. Retrouvons-les dans l'atelier. Louis-René Berge, quelle définition du temps donneriez-vous ? Simplement, le mot temps, ça évoque quoi pour vous ? Avant de parler de gravure.
C'est une obsession. C'est une obsession et à mon âge, c'est quelque chose d'important.
Catherine Gillet, vous êtes plus jeune et vous connaissez bien Louis-René Berge. Le temps pour vous, c'est quoi ? Le mot temps, qu'est-ce que ça évoque ?
C'est plein de choses, c'est des images, c'est des sensations. Ça peut être comme un chemin sur lequel on avance, une quête. Je sais pas, c'est difficile comme ça.
Pourtant, pour tous les deux, c'est un thème central dans votre œuvre.
Oui, mais alors, on peut pas en parler. Mais c'est parce qu'on peut pas en parler que justement on fait de la gravure. Et que peut-être ça nous tracasse beaucoup l'un et l'autre. Et qu'on s'exprime, au fond, non pas par la parole, pas par l'écrit, mais par le burin, par notre gravure.
Catherine Gillet, vous avez beaucoup de gravures, et Louis-René aussi, mais qui ont pour thème l'oubli, l'instant, l'âge. Toujours on revient à cette idée du temps qui passe. Vous avez toujours dans votre gravure un petit coin pour ce thème-là ? C'est le fil conducteur, c'est la trame centrale de votre œuvre ?
Non, je pense pas, mais c'est aussi bien. Enfin, je suppose beaucoup d'artistes, quel que soit leur moyen d'expression, mais c'est pas le thème central. Mais le temps est prégnant parce que il faut que les choses exprimées soient justes et le temps compte dans l'affaire. Je dirais, c'est un peu comme faire son jardin, ou vous savez, comme les Japonais qui choisissent les pierres qui doivent être au bon endroit. C'est un peu pareil. Et il faut qu'on exprime des choses qui, comme l'a dit Louis-René, on n'exprime pas par des mots, mais que par les traits qu'on va faire, le cuivre qu'on va inciser, on va laisser trace. Et on a besoin du temps pour mûrir tout ça et pour que ça voie le jour. Et on a besoin en même temps de l'expérience, du temps vécu déjà, de tout ce qu'on porte en soi pour produire ces images et les offrir au regard des autres.
Louis-René.
Je voudrais dire une chose pour continuer ce que dit Catherine. En fait, dans nos gravures, en tout cas dans les miennes, et je pense aussi dans celle de Catherine, il y a des temps différents. On en a parlé d'ailleurs déjà. Dans mes gravures, il y a un temps qui est un temps, je dirais, linéaire, et qui est les longs traits que je fais. Bon. Et puis il y a un temps qui est un temps de plus grande conscience, qui est quand j'aborde le noyau de ma gravure, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est un temps de conscience.
Vous avez énuméré plusieurs temps, Louis-René, tout à l'heure, là. Vous en avez énuméré deux. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Temps linéaire et le temps...
Et le temps de conscience, mais est-ce qu'il y en a d'autres ?
Ça, c'est peut-être très personnel. Il y a le temps de création, c'est autre chose. Mais alors, le temps du faire, c'est-à-dire le temps que je mets à faire mes gravures, est un temps qui est déjà programmé, d'une certaine manière. Donc, c'est deux temps, le temps linéaire et le temps de l'objet central. Et puis, il y a le temps de la création. Le temps de la création, ça, c'est un temps illimité. Enfin, bon... À certains moments, on ne sait pas pourquoi, on fait quelque chose. Et puis, à d'autres moments, on reste des heures ou des jours sans que ça vienne.
Catherine, vous avez écrit un texte. La lenteur choisie de la gravure au burin amène à un mûrissement de souterrain de tout cela. Et c'est quelque chose d'impossible à anticiper, dites-vous. Est-ce que la gravure, c'est un outil particulier pour exprimer le temps, justement ? Est-ce que c'est pas un outil qui l'exprime encore plus que d'autres ?
C'est-à-dire qu'il faut du temps pour graver.
Est-ce alors, que ça joue pour
la gravure au burin, il y a des temps. Par exemple, quand on aborde d'autres techniques comme l'aquatinte ou comme l'eau forte, etc., il y a des temps différents. Dans l'eau forte, par exemple, il y a des temps d'attente quand on plonge la plaque, bon, et que l'acide va faire pendant un temps donné, qu'on doit maîtriser d'ailleurs, parce que plus on laisse la plaque et plus l'acide creuse. Ce sont des temps, alors, où, des temps d'attention. Mais ce sont des temps où on peut faire autre chose. Dans notre spécialité du burin, c'est un temps qui est constant, c'est-à-dire que on peut s'arrêter, bien sûr, mais le temps s'arrête complètement. Et puis on reprend. Ce sont des temps, à mon avis, très différents. Le temps du burin est un temps de continuité, je dirais, plus grande, d'homogénéité, plus grande que d'autres techniques où on passe d'une manière de faire à une autre.
Vous sentez cette continuité, cette absence de rupture dans le travail que vous faites, Catherine ?
Oui, puis je dirais que il faut être complètement disponible et être très concentré, puisque c'est inhérent à l'outil, tout ça. Pour ce qui me concerne, je le vis de plus en plus avec le temps qui passe, comme il y a des sortes de rituels, d'échauffement pratiquement comme un sportif, d'exercice avec les yeux, avec la vue qui baisse, tout ça, pour avoir une acuité, une concentration, une assaise pratiquement du geste. Enfin, ça doit être tout l'être qui doit être disponible. Donc, on ne peut pas être distrait par autre chose. Ce qui n'empêche pas d'écouter de la musique ou la radio, tout ça. Mais je peux arriver à dissocier, mais n'empêche que mon corps et ma main et mon cerveau doivent épouser l'outil pour que le cuivre réponde. Et il faut du temps. Ça peut pas être 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Ce qui fait que c'est pas évident, toujours, en fonction de ce qu'on a à faire autrement, de consacrer le temps suffisant pour se faire et que la gravure existe.
J'ajouterais aussi, enfin, il y a des tas de choses à couper sans doute, Jean-Pierre Tingot, avec qui j'avais de très bons rapports, mais je me souviens qu'il était drummer. C'était un musicien de jazz, il était à la batterie. Et finalement, il me disait qu'au fond, quand il fait du burin, c'est comme quand il fait de la batterie, il y a un rythme. Et ça, je trouve que c'est un très bon exemple. Il y a une espèce de rythme qui vous conduit. Et on est emporté par ce rythme.
Parce que chaque trait, effectivement, c'est un geste, c'est une amplitude qui est répétée et qui va être guidée selon vos désirs à l'un à l'autre.
Ces gestes sont plus ou moins longs.
Voilà, hein, pour mais c'est un peu comme une danse.
C'est plus court que dans mes grandes. Toi, c'est pareil, tu fais des petits traits très fins, très très attentifs, très 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 minutieux. Donc, c'est des temps plus courts, sans doute.
Non, c'est très variable. En même temps, c'est ça que j'aime dans le burin, c'est cette liberté qu'on a de passer des grands traits, des petits traits, enfin tout ça. Et la lenteur qu'on exploite, je trouve, participe du processus, parce que c'est une lenteur qui n'en est pas une, finalement. C'est ce qu'on avait essayé de faire dans notre exposition commune, montrer qu'on avait un rapport au temps et à l'espace différent. Et ça, c'est vraiment important.
Oui, c'est un tout de même très intéressant. On ne fait pas le même burin, tout de même. Mais il y a des points très communs. C'est ça qui était intéressant dans cette exposition.
Quels sont vos points communs à l'un et à l'autre ?
Le point commun, c'est l'outil. Ce qui nous différencie, c'est la manière de le tenir. On ne tient pas le même... Enfin, la manière, non, pas de tenir. On tient certainement le burin de la même manière. Mais la manière de s'en servir, bon, c'est sûr. Et puis, c'est notre création qui est très différente. Moi, j'ai une création plus traditionnelle, disons, qui est il y a 30 ans, pas tellement traditionnel, mais qui est devenu traditionnel maintenant. Et Catherine est une génération qui me suit et qui présente une image qui est différente. C'est ça qui est intéressant. Le même outil, deux générations différentes font forcément deux œuvres différentes, en exprimant presque la même chose, à beaucoup de points de vue.
Je dirais que ce qui nous rapproche aussi, c'est un côté un peu acéré de considérer tout cela, ce qu'on fait sans chercher forcément à plaire, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. et un goût vraiment pour la précision et le geste nécessaire.
Je pense aux montres de Dali, au tableau du temps, vous savez, avec ses montres molles. Et j'aurais bien aimé vous entendre, Catherine Gillet, sur ces courbes, ces choses qui tombent. Vous savez, dans vos gravures, il y a... Moi, je ne peux pas l'exprimer, hein, mais il y a... Anne Guérin parlait d'un tremblé. Moi, j'ai quelque chose qui, entre l'espace du papier et puis votre burin, il y a des choses, du vide, qui font penser justement à ce thème du temps. Et vous avez une grande gravure, un grand format qui s'appelle « L'espace d'un instant », où justement, avec votre burin, avec ses traits noirs et cette grande place laissée au blanc du papier, on a un rapport à l'espace et au temps qui est très particulier. C'est une gravure, pour moi, symbolise le temps le mieux possible, parce que c'est un petit fil, un petit trait. J'aimerais que vous nous en parliez de cette gravure. Comment vous l'avez faite? Comment elle est née? J'en sais rien. Je sais pas. Peut-être c'est des questions qu'on ne pose pas, hein, mais si vous aviez à la présenter à, comme ça, à des gens qui ne l'ont pas sous les yeux.
C'est difficile parce que autant certaines autres, je saurais quoi dire. Alors, en plus, c'est plus difficile pour moi parce que celle-ci, elle est seule. Alors que la plupart de mon travail, autrement, c'est des suites. Donc, il y a comme une histoire. Donc, je peux plus facilement dire des choses avec des mots. Alors que là, celle-ci, elle est grande et elle est seule. Donc, comment elle est venue, je ne saurais pas trop dire. Probablement qu'à ce moment-là, j'avais cette plaque que j'avais récupérée auprès de quelqu'un qui ne pouvait plus faire d'eau forte et qui vendait du cuivre. J'avais acheté des cuivres d'occasion, des différents formats. Et j'avais cette grande plaque qui avait des accidents, des rayures. Et j'aimais bien son format, une espèce de faux carré. J'avais envie de garder libre une grande partie de l'espace. Et voilà, de faire quelque chose où à la fois il y a une densité, donc j'ai investi beaucoup le haut de la plaque. Qu'est-ce que c'est? C'est des lignes, un peu en vague, avec plein de petites choses. Et puis il y a un grand espace libre. Et puis en bas, il y a de nouveau des formes qui émergent avec des noirs assez importants. Et après, voilà, chacun peut se faire son histoire, dire si c'est un paysage, dire si c'est une métaphore du temps, je ne sais pas. Il se trouve que je l'ai appelé l'espace d'un instant parce que je trouvais que c'était assez proche de probablement ce que j'avais essayé de faire, même si je ne le savais pas pendant que je le faisais. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne chez moi. Les titres ne sont pas une illustration, ni l'inverse. C'est comme un travail littéraire, pratiquement. Il faut qu'il y ait une concordance, dans des temps, on pourrait dire, pratiquement, mais voilà. Mais il y a quelque chose, effectivement, peut-être qui, on pourrait dire, qui tombe ou qui est suspendu comme ça, dans l'espace aussi. Et ça, je suis pas encore parvenue à aller jusqu'au bout de ça. J'ai en tête, pour l'instant, c'est pas concrétisé sur des plaques, mais j'ai envie de faire des choses beaucoup plus grandes, avec des choses qui tombent comme ça. Reprendre un peu ce qui a pu être présent sur une gravure qui est actuellement ailleurs, qui était aussi à l'espace Cardin, là. Prélude à l'oubli, où il y a aussi une forme assez dense en haut, et après, il y a des traits qui choient comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à exprimer. J'espère que dans les quelques années qui vont venir, je vais arriver à faire cela pour toucher au plus près ce que je pense avoir à faire en gravure. Je sais pas, peut-être j'y arriverai jamais, mais je voudrais arriver à même ressentir moi en le faisant, espérer peut-être que d'autres le ressentent, quelque chose comme on peut avoir une émotion musicale ou une émotion amoureuse, enfin je sais pas, quelque chose où le temps s'arrête et en même temps on est prêt à se laisser couler, on est prêt à mourir presque pour vivre cela. Et c'est indicible et impalpable, mais je sens que ça germe.
Voilà. Oui, René, vous connaissez cette gravure de Catherine Gillet?
Oui, j'allais chez moi.
Je trouve que dans vos deux gravures, tous les deux, la façon dont vous gérez le temps, d'après les titres, d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on décrypte, évidemment c'est lié à l'espace, puisque c'est votre moyen d'expression à l'un à l'autre avec ses traits au burin. Catherine Gillet, il y a cette idée de chute, de mouvement qui choie, quelque chose comme ça. Chez vous, Louis-René, il y a quelque chose sur le temps qui passe, c'est de l'ordre, j'allais dire du souffle. Même si on a parlé tout à l'heure de votre gravure fétiche, il y a quelque chose, on sent un mouvement. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement. Et chez Catherine aussi, c'est pas la même façon, justement, de décrire le mouvement, le temps, etc. Est-ce que, pour vous, le temps est plus linéaire, Louis-René?
Oui, sans doute.
Parce que je pense par rapport aux gravures. Oui. Je ne connais pas toute l'œuvre de l'un et de l'autre, Catherine a des œuvres plus de tourbillon, des choses comme
ça. C'est-à-dire que je suis, disons, entre guillemets, plus figuratif. Donc mon temps est représenté d'une manière plus concrète. Par exemple, cette gravure que j'ai sous les yeux qui s'appelle La manivelle du temps, bon, c'est un. Il y a une manivelle. Tourner, c'est du temps. Il y a autre chose aussi qui matérialise le temps chez moi, c'est le fil de fer barbelé. C'est-à-dire que beaucoup de gravures, j'ai même fait un bouquin entièrement fait de fil de fer barbelé que j'ai pratiquement jamais montré à personne. Que j'ai même pas ici, que j'ai à la maison. J'ai fait ça avec un poète qui est mort depuis. Donc là, il y a quelque chose de linéaire. Vous avez tout à fait raison, c'est notre représentation du temps à l'un comme à l'autre est différente. Oui, j'avais pas beaucoup réfléchi à ça, mais c'est tout à fait vrai. La ligne, pour moi, la ligne, barbelée parce que le temps est agressif. Alors, le temps, pour moi, qui suis un homme qui a vécu, je vous le disais tout à l'heure, j'étais trop petit pour faire la guerre, mais enfin, j'étais tout de même prêt.
Au moment de la Deuxième Guerre mondiale.
17 ans. Donc, j'ai pas fait la guerre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai un père qui avait fait la guerre, enfin bon, bref. Les prisonniers, la Shoah, enfin tout ça, ça nous a marqué, incontestablement. Même si on n'a pas participé, ni même dans ma famille. Mon père n'a jamais été prisonnier. Mais je veux dire que... Et alors c'est ce temps est matérialisé parce que je voyais autour de moi, tout bêtement.
Mais moi je dirais même que... Moi je suis donc de la génération d'après, mes parents et ton âge... Mais même des gens de ma génération, on est imprégnés de tout cela aussi. J'ai des souvenirs quand le film de Lanzmann, Shoah, était passé à la télévision. J'avais, je sais pas, 25, 26 ans. Pour moi, c'était absolument fondamental de regarder cela. Et j'avais une amie qui était avec moi qui me disait, mais pourquoi tu regardes cela? Tu te complais dans la douleur et tout ça. Mais pour moi, l'expression de toute cette souffrance et de cette douleur, c'est des choses qu'on porte. On hérite des choses des générations d'avant. Moi, il se trouve, j'ai pas connu mon père, mais je sais qu'il a fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de choses souterraines ou inconscientes de cet ordre-là qui passent dans mon travail. Des choses qu'ont vécues des gens de ta génération ou de celle d'avant.
Il y a une phrase de Gabriel Debreuil concernant votre œuvre, Louis-René, qui est la suivante. « Des empreintes digitales posées délicatement sur l'épiderme douloureux du temps ». Pour faire résonance à ce que vient de dire Catherine Gillet.
Non, mais cet article est tout de même bien écrit d'abord, et puis ensuite c'est très sensible. Enfin, moi j'essaie de temps en temps de mettre un petit peu, quelquefois involontairement, mais enfin un petit sourire, un petit clin d'œil tout de même. Peut-être la dernière gravure, donc, il y a un petit clin d'œil tout de même. Souvent j'essaie un petit peu, presque inconsciemment d'ailleurs, de mettre un petit peu de... Je ne sais pas, c'est pas de l'humour, c'est un clin d'œil.
Ce clin d'œil, vous pouvez le rappeler là, pour les auditeurs. Cette gravure à laquelle vous faites allusion, c'est un escalier. C'est de celle-là dont vous parliez là.
C'est une gravure.
Avec un escalier.
Avec un escalier qui est un peu tordu et qui amène sur le vide. Le vide est en même temps ici. Le vide, puisque cet escalier, c'est comme un plongeoir. On peut plonger et en même temps, il y a le ciel. Et ce ciel est un peu inquiétant parce qu'il y a des nuages qui arrivent, mais ce ciel, pour le moment, est tout de même assez pur. Et qu'est-ce qui va arriver? Enfin, bon, c'est le... Il n'y a pas beaucoup d'humour là-dedans. Il y a simplement une interrogation. Et c'est une gravure un peu lourde. C'est pas quelque chose de léger. Il y a des pierres, il y a des... Voilà. Et il y a tout de même, historiquement parlant, ces deux générations... On a les mêmes préoccupations, mais on ne les exprime pas du tout de la même manière. C'est intéressant, ça. Moi, je l'ai dit d'une manière plus, j'allais dire, pesante. Ce n'est pas tout à fait le cas, tout de même. Mais je mets peut-être un peu plus les points sur les i que Catherine. Catherine, il faut tout de même... Mais c'est ça, la grosse différence, c'est cette différence de génération où... Alors, je ne sais pas très bien, je connais mal ta génération. Nous donnons des prix à l'Académie, tout à fait entre nous. Nous donnons des prix et moi-même, je suis moins au courant. Alors, Demasia est déjà plus jeune que moi, il a 20 ans de moins que moi. Donc, il connaît mieux la gravure plus récente. Moi, je la connais moins, quoique j'aille aux Beaux-Arts. Parce qu'on demande à l'Académie de donner des prix à des gens qui ont moins de 25 ans. Et j'étais au Beaux-Arts plusieurs fois, et j'ai donné alors des prix. Et je me suis aperçu qu'il y a des graveurs actuels, des jeunes, qui font des excellentes gravures. Et alors, il y en a qui sont proches de nous, de moi, et d'autres pas. Il y en a qui font des trucs plus que j'aurais pu faire, enfin, comment est-ce que je veux dire, enfin, ils sont plus proches de mon monde que de celui de Catherine, et il y en a qui sont proches de Catherine. Il y a cette espèce de mélange des deux. Alors, c'est pour ça que je me demande cette histoire de génération, ça demanderait des réflexions, tout ça. Vous nous entraînez vers des réflexions terribles, qui sont très intéressantes d'ailleurs, parce que au fond, on n'a pas tellement réfléchi à tout ça.
Par exemple, Catherine, vous êtes, Louis-René dit que vous êtes une génération plus jeune et différente. Est-ce que vous sentez ces différences générationnelles ?
Oui et non. Oui, parce que je pense que tous les êtres humains, on est imprégnés de l'époque à laquelle on vit. Mmh. On est tributaire de plein de choses, que ce soit au niveau de l'habillement, de l'architecture, enfin, tous les goûts, etc. Mais non, parce qu'en même temps, je pense que c'est même pas forcément une histoire de génération, c'est une histoire de manière de penser qui pourrait s'apparenter à des courants philosophiques, poétiques, ou enfin voilà. Donc c'est après, il y a des correspondances qui peuvent se faire indépendamment des générations.
Oui.
C'est ce que je trouve formidable d'ailleurs dans le lien qu'on a pu tisser entre nous via la gravure, et où la différence d'âge est une richesse, parce qu'il y a une transmission de données, mais... La différence d'âge est une richesse, mais c'est parce qu'il y a ces correspondances par ailleurs qu'un échange peut exister, des résonances, enfin tout ça.
Comment vous parleriez de la gravure de Louis-René Berge à quelqu'un qui ne la connaît pas, si vous aviez à présenter sa façon de traiter le burin ?
Je dirais que c'est vraiment l'amour du trait. Pour résumer court, il y a 2-3 ans, avec l'association Gravé Maintenant, on avait organisé à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt, des expositions organisées en cabinet. Il y avait un des cabinets qui s'appelait « Pour l'amour du trait ». Et c'était en pensant à Louis-René que j'avais intitulé cet espace où il y avait plusieurs graveurs, pas uniquement des burinistes d'ailleurs, mais cette importance du trait chez lui, du trait droit, pas droit, etc. Mais c'est le signe fondamental de son écriture.
Mais pour tous les graveurs, le trait, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il a, le trait de Louis-René Berge ?
Louis-René, il a un trait qui parle. Ça n'est pas un trait pour exprimer uniquement des valeurs, ou comme là, on a sous les yeux la manivelle du temps, figurer tel ou tel objet, ou partie d'objet, ou partie de paysage dans d'autres gravures. C'est vrai que c'est difficile, parce que, en plus, comme ça, là, à la radio, un trait, voilà. Mais c'est vrai que c'est un trait spécifique du burin. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, ça ne veut rien dire. Il n'y a rien qui est gratuit. Chaque trait est nécessaire. Avec une gestion de la lumière, des réserves, des tailles, des contre-tailles, il y a une grande richesse graphique. Il y a des gravures de Louis-René qui sont très complexes dans le jeu des valeurs, et il y a une organisation très 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 précise, mais aussi une part de mystère. Et tout ça, c'est par des traits qui sont, je pense aux grandes gravures qui sont avec des traits presque parallèles, mais pas complètement parallèles. Louis-René explique ça dans un texte, il me semble, où il ne faut pas que ce soit trop parfait non plus, sinon ça ne va pas, ça devient ennuyeux, il faut gaucher, je crois, le trait, donc il y a un besoin de sensibilité. Et il y a un livre que tu as fait là, qui se déplie, c'est pas Géographie intérieure celui-là ?
Si, oui.
Ça fait comme un triangle qui se termine en pointe.
Ah oui, non, oui, Géographie intérieure, je crois, avec Combé.
Oui.
Oui, avec Combé, ils vont fêter ses 80 ans dimanche. Et je lui ai apporté le gant, l'avion que j'ai fait là. Oui, alors j'ai fait un livre avec lui, c'est-à-dire qu'il a fait un petit livre, la géographie intérieure. Non, c'est un poème, Géographie intérieure. Mais je connais un peu sa philosophie, parce que c'est un très bon écrivain, qui écrit un français admirable, qui s'en souffre, parce que c'est un ancien séminariste, et qui est très préoccupé par les problèmes de la chair, les problèmes de... Il est très porté d'ailleurs là-dessus. C'est pour ça que je dis ça s'en souffre, par rapport au fait qu'il est en même temps, il se culpabilise beaucoup de ses pensées, tout ça. Mais c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Et j'avais lu un petit poème de lui qui était très bien, Et sa philosophie, c'est de se demander pourquoi on vit, pour finalement. Et alors, j'avais fait un bouquin, il y a une gravure qui mesure, je crois, 80 cm, qui est simplement une barrière. C'est celle-là dont tu parles ?
Moi, quand je l'ai vue, c'était vraiment quelque chose de très épuré. Donc, c'est un livre en accordéon.
Oui, c'est ça, oui.
Quand il, je ne sais plus dans quel sens ça part, mais on a une grande surface. Et puis, au fur et à mesure qu'on déplie l'accordéon, ou qu'on tourne les pages, ça diminue.
C'est ça, oui, c'est ça.
Et si on l'ouvre, ça fait comme une espèce de grand fanion qui se termine en un point. Donc ça fait comme un très grand, triangle, comme une sorte de fanion, comme ça. Parce que c'est pas complètement comme un triangle très géométrique. Et il y a des hachures transversales, un peu en biais, relativement parallèles, qui,
c'est un grillage,
qui font une trame.
Une trame, oui.
Qui font une trame de gris.
Oui.
Très pure comme ça, mais on va à l'essentiel. Et pas besoin de fioritures et tout ça. Et ça, je trouve ça très fort, hein, parce que c'est complètement intemporel. Et il y a une grande charge émotionnelle dedans.
Oui, c'est l'idée aussi, cet aller-retour. C'est-à-dire que l'idée de Combet, que j'ai matérialisée par cette forme, qui est une espèce de grillage, c'est de dire, on fait un parcours, et pourquoi on a fait ce parcours ? C'est-à-dire que c'est l'aller et le retour. Et dans ce poème qu'il avait fait, ça m'avait beaucoup frappé. Et ça aussi, c'est le temps. Toujours pareil.
Quel est le prénom de Combet ?
Claude.
Claude Combet.
Il s'appelle Claude Louis Combet.
Claude Louis Combet.
C'est Louis Combet. Louis Trédution Combet.
D'accord.
C'est un homme qui a écrit beaucoup, qui est un ancien professeur de philosophie, et qui est un homme travaillé par le péché de chair spécialement. Et il a écrit il écrit le français de manière absolument merveilleuse et parfaite. Il y a des choses qu'il écrit qui me choquent, qui me restent un peu en travers. Mais c'est normal, hein. Et il y a des choses que j'adore. Mais tout son côté un peu sulfureux, j'aime moins. Mais c'est tellement bien écrit que ça passe tout de même. Mais ce côté travaillé par le... gêne un peu, puis alors il s'est associé avec un graveur peintre italien qui fait des trucs sur le sexe féminin. Il me plaît moyennement. Je sens pas ça. Mais lui, peu importe, lui, alors il a sa philosophie, et puis en plus il est travaillé par certaines choses. Alors, il a une compagne, et j'ai été chez eux à Besançon, et sa compagne est une ancienne femme de ménage, je crois, qui a été femme de ménage, qui est très cultivée. Et qui vit, mais bien sûr, on peut pas, avec Combet, on ne peut pas avoir une sotte à côté de soi, c'est sûr. Elle a un appartement très extraordinaire. Elle elle-même est très peinte, est très maquillée, et tous ses rideaux sont violets. Et elle a un énorme bateau, une barque, et elle couche dans cette barque. Peut-être avec lui, je ne sais pas. Mais c'est des gens un peu curieux, hein. Et que j'aime énormément, et qui... Alors lui, il m'a fait une introduction dans mon catalogue de 25 pages. C'est lui qui a écrit un truc de... Et alors, il a écrit sur Doaré, il a écrit sur tout un tas. Alors, il y a un bouquin comme ça, sur toutes les préfaces qu'il a faites. Et j'ai eu le plaisir de voir que c'est moi qui ai la plus longue préface. Et alors, il y a tout même une ou deux phrases que j'aime beaucoup, que je mets souvent dans mes trucs. Le sens de la faille, le destin de l'araignée. Et alors là, il écrit « Avec le burin pour seul outil, il est impossible de tricher. L'œuvre est exemplaire d'honnêteté. Elle ne parade pas, elle se tient élaborée dans la solitude du lieu, dans le recueillement de la pensée, dans la persévérance de l'effort. Elle offre sa singularité non comme l'effet tapageur d'une mode, mais comme la simple affirmation d'une exigence de vérité intérieure qui ne saurait s'exprimer que selon les principes d'une esthétique, de la rigueur, de l'équilibre et de la lucidité. C'est nous. Il l'a écrit aussi bien pour moi que pour Catherine. Je l'ai souligné parce que c'est tous les burinistes qui sont. C'est la définition d'un buriniste, en fait. Mais elle nous fait parler, hein, Marianne.
Bon, donc c'était la moi, famille soif. Des burinistes que je vous ai fait dévoiler un petit peu. Mais quand je regarde là, sous les yeux, les trois gravures là, de Louis-René, on voit bien ces traits... Je ne sais pas comment les exprimer. Ceux-là, là.
Ceux qui sont blancs ? Oui, en réserve.
Voilà.
C'est le papier, oui. Là, c'est le cuivre qui est creusé, là.
Oui, mais on les retrouve là.
Oui,
là.
Ce sont les deux gravures que j'ai faites il y a 20 et quelques années. C'est très vieille et très ancienne.
Oui. Catherine, vous ne le faites pas de la même façon. Vous, c'est très là, je ne sais pas, mais il y a ces traces. C'est pas qu'elles guident, je sais pas ce qu'elles font, mais en tout cas, elles sont là, dans votre œuvre gravée à tous les deux. J'en ai pas ça chez d'autres, enfin, je les lis pas. Tandis que chez vous, Catherine, et chez Louis-René, et moi, j'aime bien parce qu'elles ont quelque chose de la trame du temps qui est inscrite. Mais bon, voilà, c'est très personnel, mais j'avais l'impression qu'on retrouvait un peu cette façon chez vous aussi d'avoir, pas sur toutes les gravures, hein, mais il y en a quelques-unes où il y a ce petit fil conducteur. Ben, je sais pas si c'est un fil conducteur, hein, je sais pas comment. Vous avez appelé ça d'une façon particulière, Catherine, là, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était des réserves. Qu'est-ce que c'est, les réserves? C'est quand on s'arrête?
C'est quand on laisse des blancs. Donc là, effectivement, il y a toute cette trame qui avance. On a l'impression que c'est coupé. Donc les traits sont arrêtés, mais ouais, pas tous d'ailleurs. Et dans l'autre sens, on a toute cette ligne blanche. Donc c'est une réserve parce que là, il n'y a pas
une... Oui, c'est pas, j'ai des gravures qui sont beaucoup plus caractéristiques. Il y a une gravure qui s'appelle Le Solitaire, où il y a un petit bonhomme, tu le vois. Oui. Il y a juste un petit bonhomme et puis... Et alors là, ça ressemble pas mal d'une manière à moi, enfin, par rapport à Catherine. Mais il y a un petit bonhomme, je vais vous la montrer si je la trouve très vite, qui est tout à fait dans le sens que vous dites. Si je l'ai ici, voilà.
Ouais, celle-là,
c'est celle-là.
Ouais. Mais comme a dit Louis-René en lisant l'extrait de Monsieur Combé, Louis Combé, c'est... Il y a ce côté...
Ah, ce côté...
Où il n'y a pas de...
Non, il y a de rigueur et l'honnêteté. Il y a une espèce d'honnêteté dans notre travail, je pense.
C'est assez épuré. Et moi, enfin, j'ai écrit dans des petits textes, tout ça, et il y a des textes que j'ai, ou ce que je vous avais montré, c'est, j'ai pas écrit ça hier, mais je m'y retrouve toujours, où il y a quelque chose qui est complètement immatériel, enfin, intemporel, on sait pas, mais en même temps, c'est inexorable, et on tend vers cela, et de la même façon que c'est complètement inutile faire tout ça, mais c'est absolument vital. Et c'est pas forcément facile à comprendre, ça. Ça peut paraître un luxe, mais pourtant c'est vrai.
Je vous remercie tous les deux.